Vous êtes sur RTL.
Il est 8h du matin.
RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce dimanche 12 janvier à la une ce matin, le retrait de l'âge pivot, un retrait provisoire.
Comme promis, Édouard Philippe s'est adressé aux syndicats dans un courrier hier concernant la réforme des retraites. Effectivement, exit ce point d'achoppement. En tout cas, pour certains syndicats, formule gagnante pour le Premier ministre, car en faisant cela, il tend la main sans pour autant reculer. Donc pour l'instant, Marie Mollet, personne ne perd la face.
Oui, il était le premier avocat de l'âge pivot. Avec ce retrait provisoire, Édouard Philippe trouve une façon de s'assouplir sans se dédire. D'un côté, il renonce à l'âge pivot à 64 ans en 2027, ramène les syndicats réformistes autour de la table et permet à la CFDT de Laurent Berger de crier victoire. Mais de l'autre côté, Édouard Philippe pose un ultimatum aux syndicats. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, à trouver des solutions d'équilibre budgétaire d'ici fin avril, alors le gouvernement reprendra la main par ordonnance et l'âge pivot à 64 ans pourrait bien s'appliquer. Et le Premier ministre impose aussi ses conditions, son calendrier. Fin avril pour les conclusions de la conférence de financement, avant l'été pour le vote définitif au Parlement, il trace des lignes rouges, pas de baisse des pensions et pas de hausse du coût du travail. Sous la pression d'Emmanuel Macron et de sa majorité, Édouard Philippe a donc été contraint de lâcher du lest sans donner l'impression d'une reculade, car c'est son crédit à porter la réforme jusqu'au bout qui est en jeu.
Les précisions de Marie Mollet du service politique de RTL. Alors forcément, la CFDT se dit satisfaite puisque le retrait de l'âge pivot était la condition sine qua non pour reprendre les discussions. Cela dit, Cyril Jouan, le secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, regrette le temps perdu.
Ah mais c'est clairement quelque chose de positif pour la CFDT, le retrait de l'âge pivot. C'était l'élément fondamental. Mais on aurait pu le faire bien en amont et puis gagner 36 jours et puis au moins avancer sur le fond. La pénibilité, il y a un gros sujet sur la table encore aujourd'hui. Les carrières longues, il y a un travail à faire. L'égalité homme-femme avec les pensions pour les femmes, il y a un vrai sujet sur la table. Aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas écouté la CFDT. Résultat des courses, il a perdu 36 jours et il s'est ridiculisé auprès des Français.
Propos recueillis par Hugo Hamelin. Alors ça, c'est du côté des syndicats réformistes. Mais pour les autres, le retrait provisoire de cet âge pivot ne change rien à l'affaire, ni à la mobilisation qu'il faut poursuivre, selon Yves Verrier, le patron de Force ouvrière. Tout est dans le provisoire.
Il ne le retire que de manière temporaire. Hein. Je ne vois pas en quoi cela est un compromis. Ce qu'on nous demande, c'est de faire des économies à hauteur de 12 milliards d'euros d'ici 2027 et en nous précisant très clairement que cela ne doit entraîner ni baisse des pensions pour préserver le pouvoir d'achat des retraités. On n'allait sûrement pas proposer de baisser les pensions, ni hausse du coût du travail. Donc c'est très fermé. En réalité, ce que nous demande le Premier ministre dans cette lettre, c'est de négocier nous-mêmes la mise en place d'un âge d'équilibre entre 2022 et 2027. Donc la mobilisation continue, bien évidemment.
Et justement, prochaine journée nationale de mobilisation, ce sera mardi. Yves Verrier répondait à Christophe Ponzio. Hier, beaucoup de manifestants ont appris le retrait de l'âge pivot alors qu'ils étaient dans la rue. De nombreux cortèges étaient organisés un peu partout en France. À Paris et à Nantes, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre.
On attend beaucoup justement de la prise de parole de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sur cette réforme du système des retraites et l'annonce de l'exécutif. Muriel Pénicaud qui sera l'invitée du grand jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche face à Benjamin Sportouche, ce sera tout à l'heure, il sera midi.
Et puis toujours au chapitre politique, ce n'est pas une surprise, Anne Hidalgo officialise sa candidature pour un deuxième mandat à la mairie de Paris. Elle assure dans Le Parisien aujourd'hui en France qu'elle ne se présentera pas à la présidentielle de 2022. Elle répond ainsi à ceux qui la soupçonnent de vouloir se servir de l'hôtel de ville comme un tremplin pour l'Élysée.
Un policier toujours entre la vie et la mort après avoir été renversé délibérément hier dans le Rhône par un conducteur. On en parle juste après ceci.
RTL Matin. Johnny Hallyday, la collection vinyle événement. Redécouvrez tous les albums mythiques de Johnny Hallyday avec toute la magie du son vinyle dans une collection exclusive accompagnée d'un fascicule inédit dès aujourd'hui. Retrouvez le numéro 2, l'album vinyle Derrière l'amour avec les chansons Gabriel et Eric Huyem pour un fou chez votre marchand de journaux ou sur collectionjohnny.com. RTL.
L'instant.
8h06, suite de RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
C'est ce policier renversé hier près de Lyon. Il est toujours ce matin dans un état critique.
Le pronostic vital de l'homme de 45 ans est engagé. Il a été percuté à Bron alors qu'il tentait d'intercepter un fourgon impliqué dans un vol de marchandises. L'auteur des faits est toujours activement recherché alors que les collègues du fonctionnaire, eux, sont très touchés, Nerissa Imani.
Oui, cet agent de la Sûreté départementale de 45 ans, originaire de Reims, est très apprécié de ses collègues. Il décrit un homme dur, sportif et expérimenté. Hervé Redon le connaît bien, il est délégué du syndicat Alliance.
Déjà, c'est de la tristesse. On pense beaucoup à la famille, aux proches. Et puis, bien évidemment, tout ce qui vient coiffer tout ça, c'est de la colère. C'est dramatique, oui, parce que derrière le fonctionnaire de police, il y a l'être humain. La personne qui lui a foncé dessus, clairement, n'a aucun respect pour la vie humaine en général. Les fonctionnaires de police sont très clairement ce que j'appelle des tampons de la République.
Un sentiment partagé par les représentants du syndicat SGP Police. Sur Twitter, ils se disent effondrés et déplorent un mépris de la population à leur égard.
Le reportage de Nerissa Emani pour RTL à Lyon. À Marseille, c'est un gardien de la paix de 25 ans qui est dans un état très critique. Il était grièvement blessé dans la soirée après avoir tenté de s'interposer dans une rixe entre jeunes. Au moment des faits, il était en civil et n'a pas précisé sa qualité de policier. Les corps de deux hommes et une femme ont été retrouvés cette nuit en baie de Somme. Quatre personnes étaient parties en mer pour une sortie en kayak. Elles étaient attendues hier à 17h et ne sont jamais rentrées. Les secours les ont recherchées toute la nuit et donc ont finalement retrouvé trois corps, trois adultes. La quatrième personne est un adolescent de 15 ans qui a été hospitalisé en état d'hypothermie. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances du drame. La colère des Iraniens hier soir à Téhéran. Plusieurs milliers de manifestants ont accusé le régime d'avoir menti après le crash d'un Boeing ukrainien mercredi. Les autorités ont mis plus de 48 heures à reconnaître que c'était bien un missile tiré par erreur qui était à l'origine du drame. On rappelle que 176 personnes ont perdu la vie.
Hier, Agnès, c'était le rallye Dakar, bien sûr, et surtout, c'était repos pour tout le monde.
Oui, une journée bien méritée pour les 235 concurrents encore en lice. Vous le savez, cette année, cette course se déroule en Arabie Saoudite et cela provoque la colère des associations de défense des droits de l'homme. Concernant l'émancipation des femmes, il reste beaucoup à faire, malgré de petites victoires, Isabelle Longer.
Dans les rues des grandes villes que nous avons traversées, un vent de liberté souffle. Si certaines femmes portent toujours le niqab, ce voile intégral noir qui ne laisse apparaître que les yeux, d'autres en revanche ont juste un voile qui recouvre délicatement leurs cheveux et laisse voir leur visage et leur beau sourire. C'est le cas de Lina Almeena. À 42 ans, elle est l'une des 30 femmes sur 150 représentants qui siègent à la Choura, le Parlement saoudien. Lina est persuadée que l'émancipation des femmes passe par le sport. Grâce à elle, d'ailleurs, une loi a été votée et désormais les petites filles peuvent faire du sport à l'école publique. Ce jour-là, Lina, qui a le droit de conduire depuis un an et demi, m'a emmenée en voiture.
Je suis très fière de ça parce que c'est une question d'avoir les qualités, les mêmes droits des hommes.
D'ailleurs, Azil Alamad, une jeune pilote automobile, rappelle que dans les années 70, les femmes portaient des jupes courtes en Arabie et qu'il n'est pas impossible que cela revienne.
On est prêt, on est fiers. C'est notre temps maintenant, c'est le temps de change parce que les lois se portent. Il faut qu'on montre tout le monde qu'on peut.
Parce qu'elles ont souvent fait des études à l'étranger, les jeunes femmes se sont habituées à une certaine liberté. D'ailleurs, un jeune homme me racontait sous couvert d'anonymat que certains soirs, garçons et filles partent en voiture dans le désert faire la fête en toute discrétion. Ils mettent alors de la musique, dansent et boivent même de l'alcool.
Le reportage de notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Isabelle Langer pour RTL.
Le football, décidément, Toulouse a bien du mal à sortir la tête de l'eau.
10e défaite d'affilée pour le club. Hier, c'était face à Brest, 5-2. En revanche, Lyon se ressaisit en battant 2-1 Bordeaux. Victoire également de Metz, 1-0 sur Strasbourg, de Nîmes sur Reims, 2-0. Ça passe également pour Montpellier, 2-1 à Amiens. À noter le match nul entre Angers et Nice, 1 partout. La suite de la 20e journée de Ligue 1 aujourd'hui. Saint-Etienne reçoit Nantes à 15h. Et puis à 21h, l'affiche choc PSG-Monaco. C'est à suivre évidemment dans Soir de Ligue 1 sur RTL.
Et puis Agnès, tous aux abris. Encore faut-il en avoir un dans son jardin.
Oui, et bien figurez-vous que c'est la découverte insolite d'un habitant d'Orléans. Le petit bunker en béton avait été fabriqué dans les années 40 par le propriétaire des lieux en pleine guerre. Visite guidée avec vous, Christian Ponvert.
Joël Ducasse refaisait la pelouse de son jardin. Alors qu'il retournait la terre, sa pelle a buté sur quelque chose de dur, du béton. Il a creusé autour et après avoir déplacé des centaines de kilos de gravats, il a mis au jour un abri anti-aérien qu'il nous propose de découvrir. Attention, on ouvre la trappe.
Il faut s'armer de courage, ne pas être trop claustrophobe. pour descendre. Allons-y.
Vous avez mis la lampe frontale, on est carrément sous terre.
Il y a 2m10, 2m20 de plafond, mais on peut effectivement imaginer que 5-6 personnes peuvent s'abriter, même 10. Et vous voyez qu'il y a en hauteur, à deux endroits, des trous d'aération. Il ne fait pas froid et il n'y a pas d'humidité. En discutant avec des maçons, ils m'ont dit que des bombes qui exploseraient dans le quartier, le bunker, on n'est pas persuadé qu'effectivement, qu'ils résisteraient. Mais bon, les personnes qui étaient à l'intérieur devaient avoir le sentiment de sécurité.
Donc là, on peut ressortir de l'autre côté.
Je dirais ventre à terre, de telle manière que ce soit beaucoup plus facile.
Donc on va refermer les deux trappes. Les archives municipales d'Orléans enquêtent sur le profil de son constructeur. En attendant, Joël va préserver sa découverte qui fait déjà le bonheur de ses petits-enfants.
Bon, on imagine, vous imaginez la cachette, c'est génial. Le reportage de Christian Panvert pour RTL.
Agnès revient à 9h, vous informer vivement 9h tout à l'heure. Agnès Bonfillon, toute l'actualité, c'est RTL.fr. Quand vous le souhaitez, on a Praline qui est connectée depuis le Jura, qui ce matin a 4 degrés et un ciel habillé de gris. Ils sont un peu poètes, nos auditeurs.
C'est
vous
bien,
êtes très bien.
Hein.